est une rediffusion.
Quand moi, je faisais la troisième, j'ai eu des camarades qui ont attrapé des grossesses non désirées.
Il y a plein dans le collège. Il y a certains même qui ne connaissent pas l'auteur.
Il y a même des garçons qui fuient la grossesse en disant que ce n'est pas pour eux.
Le commencement de cela vient des petites relations dans la salle d'études. Après cela, ils se laissent emporter par leur désir. Au Bénin ici, toutes les filles ont le désir d'être allées au CES. Et on a ça, la déscolarisation. On n'arrive plus à bien suivre les cours. Tu ne peux plus apprendre.
Il y en a des fois, on les renvoie. Hein. Parfois, on les accepte. Il y en a d'autres qui se moquent d'eux. Elles n'ont pas écouté les parents. C'est là, elles sont attrapées, grossesses non désirées ou autres. Ça dépend de l'éducation que l'enfant a eue, quoi. Elle se laisse aux garçons sans savoir les conséquences. Bref, c'est l'ignorance, quoi.
Sept milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue chez 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment lutter contre les grossesses précoces? L'école et ses alentours sont-ils le lieu de tous les dangers pour les filles? Reportage au Bénin, de Cotonou à Porto Novo, en passant par des villages. Le sujet est connu de tous comme une fatalité. Chaque famille espère que le malheur n'arrivera pas dans son foyer. C'est l'une des plus grandes menaces à la scolarisation des filles. Grossesse précoce au Bénin, que se passe-t-il dans les écoles? C'est un reportage de Raphaël Constant. Bonjour Raphaël.
Bonjour Emmanuel.
Le phénomène des grossesses en milieu scolaire est donc toujours d'actualité sur le continent africain. Aujourd'hui, qu'en est-il au Bénin?
Entre 2016 et 2020, plus de 9304 grossesses ont été recensées dans les établissements scolaires publics et privés par le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Le phénomène est plus important au collège et les statistiques révèlent une montée brusque entre 2019 et 2020 avec plus de 2004 grossesses en milieu scolaire. Alors certaines régions sont plus problématiques à l'intérieur du pays ou au nord. Or, les communautés ont l'habitude de pratiquer les mariages d'enfants, alors qu'en ville, le phénomène est en fait bien plus surprenant. Mais les conséquences sont toujours les mêmes, la déscolarisation des filles avant la fin du premier cycle pour assumer donc leur nouveau rôle de filles-mères.
Vous êtes donc allé à la rencontre de la société civile, des établissements scolaires pour comprendre ce qui se passe.
Oui, j'ai rencontré des élèves de collège et de lycée en ville et dans les villages, des professeurs aussi, et j'ai suivi des jeunes femmes militantes qui s'adressent directement aux jeunes dans les salles de classe. Et vous allez comprendre à quel point il est urgent de briser le tabou de la sexualité toujours. C'est un enjeu d'égalité et de développement.
Alors on commence avec un premier témoignage.
Oui, c'est celui d'Echinelle. Elle a 19 ans, de longs cheveux tressés et porte un joli pagne bleu et vert quand je la rencontre. Elle m'accueille devant sa maison au bord d'une piste où elle vit avec sa famille dans le quartier de Finanfa, un quartier résidentiel d'Abomey-Calavi.
C'est ça chez moi. Alors on arrive dans une cour, il y a du linge qui sèche au soleil.
Okay.
Bonjour.
Ça va, fils.
Tu t'appelles comment?
Je m'appelle Pena.
Et ici je vis. Il y a trois pièces, des tôles sur le toit, mais c'est monté avec des béton.
Je m'assois là?
Oui, assez.
Et Chinelle, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire? Comment vous êtes tombée enceinte?
Oui, je vivais avec ma grand-mère quand j'ai contracté la grossesse. J'avais 14 ans. Le père de mon enfant, c'est un jeune étudiant, il était en troisième année de comptabilité.
Donc il était plus âgé que vous?
Oui, il avait 24 ans. On était dans le même établissement l'année où il était en terminale. Moi, j'étais en sixième. Nous avons fait un an et demi de relation quand j'ai contracté la grossesse. Et c'était lui qui m'avait déviagé. Ce n'était pas de ma volonté, je me souviens très bien, parce qu'il m'avait forcé. Il était tout pour moi, ce que je me disais dans ma tête. Je me suis dit que je l'aimais trop.
Et on vous avait donné des conseils à la maison ou à l'école sur ces questions avec les hommes?
Non. En ce temps, je ne savais rien de la contraception, puisqu'il n'y avait personne à côté de moi pour m'expliquer mieux sur la reproduction sexuelle. Quand tu as mon âge comme ça, tu ne commences pas à demander ces trucs ici, catégoriquement ici en Afrique. On te traite d'enfant gâté, on te frappe, tout, on te donne tous les noms.
C'est ce qu'avait fait votre grand-mère?
Je n'ai jamais eu le courage de la poser des questions à ce niveau, parce que j'avais tellement peur d'elle.
Alors comment vous avez compris que vous étiez enceinte?
La grossesse avait 3 mois. Quand, sur la table de l'échographie, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis dit que mes rêves se sont brisés parce que j'avais toujours rêvé de devenir une hôtesse de lait.
Comment vous l'avez annoncé au père de votre enfant?
Mon père voulait l'enfermer parce qu'il a dit que sa fille était une mineure, qu'il a brisé les rêves de sa fille. On est parti là-bas. Et il a dit oui, qu'il reconnaît vraiment la grossesse. Il a fait l'engagement de prendre soin de la grossesse jusqu'à terme. La grand-maman ne savait même pas que j'étais enceinte. Donc le jour là, après, elle a voulu me tuer. Elle s'est fâchée, elle est venue pour me frapper avec la grossesse, tout et tout. Du coup, je suis partie rester chez le garçon. Après l'accouchement, c'était vraiment un calvaire pour moi. Tout a changé. Il s'en foutait pas mal de moi. Il a laissé les études à cause de moi. Il a trouvé un petit job. Quand il a l'argent, il ne sort que pour aller dans les bois, dans les bars, pour boire et autres. Malgré que j'étais enceinte, même le jour de mon accouchement, il n'était pas là, il était parti en boîte. Donc je ne dirais pas que j'étais très heureuse quand j'ai vu mon enfant.
Un jour, vous avez décidé de partir de chez votre petite amie?
Il me dénigrait. Parce qu'il me disait que si tu ne continues pas tes études, ça fait ton problème, tu vas devenir une vendeuse, des trucs comme ça et autres. J'ai abandonné les cours parce que j'avais honte d'aller à l'école. Et chaque jour, je me donnais de l'espoir que j'allais reporter encore ma tenue scolaire. Malgré que les parents, mon père surtout, n'étaient pas d'accord.
Pourquoi votre père, il n'était pas d'accord pour que vous retourniez à l'école?
Pour lui, j'ai déjà un enfant, c'est fini. Ce n'est que... Il faut que j'aille au foyer pour aller jouer le rôle de mère. Et ici, j'ai pu continuer les études après la naissance de l'enfant. C'est grâce à une association qu'on appelle l'Éduque Fille-Mère. Cette association m'a remis à l'école dans l'intention de me chercher un parrain afin que je puisse continuer jusqu'au bac. Mais...
Un parrain pour financer vos études?
Oui, elle demandait de l'aide pour ses filles-mères. Ils n'ont plus de parrain pour moi. Je faisais des petits jobs pour pouvoir payer mes scolarités et autres. En troisième, c'était vraiment difficile. Parce qu'il fallait que je revienne très tard de l'école pour allaiter mon enfant. Je me levais très tôt pour faire la bouillie, tout et tout, la doucher. Ça m'a pesé vraiment, je dirais. J'ai fini l'année scolaire de la troisième. Je suis allée au BPC, j'ai été admise. Après cet examen, l'enfant grandit, il n'y a pas les moyens. Le papa ne donne pas assez, des fois même ne demande pas d'après l'enfant. J'ai été obligée de laisser l'école. Et actuellement, je travaille dans un restaurant comme plongeuse, ce qui m'aide à gagner mon gagne-pain. C'était à refaire, je ne referai plus. Aujourd'hui, je dis à mes chers, à ma très chère sœur, de beaucoup faire attention aujourd'hui, parce que la puberté, on sait, c'est une période, chez le garçon comme chez la jeune fille, ça dérange vraiment. Donc je leur demandais de prendre vraiment garde à eux, même si elles veulent vraiment réussir.
Mais quelle pluie, hein?
Si ça va terminer tout ça, ça peut le faire pas. Il y a des cérémonies, des cérémonies.
Il faut arrêter ça maintenant, je continue.
Chanceline, on vient d'arriver dans une école, l'école d'Avrancourt. Il y a une grande cour, tout est vert autour de nous, beaucoup d'arbres. On est devant une des salles de classe, je vois deux grands bâtiments qui constituent l'école, avec des murs verts et orange, ocre.
Avrancourt, c'est après Porto Novo, et ça fait un peu frontière avec le Nigeria. Je m'appelle Chanceline Gladys Mevoanou. Je suis béninoise, j'ai 23 ans. Je suis activiste féministe et je lutte contre les grossesses et mariages précoces au Bénin dans les communautés. Moi aussi, j'ai grandi dans une communauté en tant que jeune, on grandit avec beaucoup de questions et on n'a pas forcément des personnes à qui les poser, ou on n'a pas surtout des espaces où on peut échanger autour de ces questions pour porter nos peurs. Donc moi, je pense que je suis beaucoup plus efficace et que j'apporte l'information à une cible qui n'est pas forcément prise en compte dans la communauté.
Est-ce que le phénomène des grossesses précoces à l'école, en communauté, est différent justement du contexte des villes ?
Oui, déjà il faut comprendre à la base que l'éducation dans les familles est beaucoup plus de donner des directives. Donc en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, on est juste obligé à suivre les directives que de pouvoir poser des questions ou soulever les choses qui nous inquiètent. La sexualité, c'est un sujet qui est tellement inconfortable à aborder, surtout que quand tu en parles, on a l'impression que c'est toi, la fille ou le jeune garçon qui est gâté, ou c'est forcément tu veux encourager à la débauche, donc du coup on n'en parle pas souvent. Et rapidement aussi dans les communautés, c'est facile d'avoir la réputation de la fille qui a connu déjà tous les hommes du village parce que toi tu poses des questions autour et on peut interpréter de différentes façons. Quand tu sors à l'école ou dans la rue, tout le monde peut t'embobiner si facilement avec des informations fausses.
C'est quoi les informations vraies, les informations fausses ?
Il y a déjà le mythe de la virginité qui existe dans notre contexte où la vraie femme, c'est celle qui reste vierge le plus longtemps possible. Les filles disent, on nous dit qu'on peut avoir de rapports sexuels sans être des vierges. Beaucoup de filles ont eu leur première expérience sexuelle à cause de cette information-là. Et souvent aussi dans les communautés, beaucoup de filles n'ont pas l'argent tous les jours de bien manger et tout. Et c'est lié aussi à la situation économique des parents qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne les incriminent pas. Et ça fait qu'autour de l'école, il y a des personnes qui peuvent dire que si j'ai des rapports sexuels avec toi, je peux te donner de l'argent, je peux donner à manger à ta maman et elles vont plus facilement au sexe. Ou même, il y a même des phénomènes pour rembourser les dettes des familles, la fille. Si tu couches comme avec telle personne, la dette que je dois, la personne va laisser tomber. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que les filles dans la communauté se retrouvent beaucoup plus facilement au sexe. Elles sont laissées à elles-mêmes et souvent embarquées et embobinées par des personnes autour.
Finalement, même les familles sont complices en fait de cette sexualité précoce.
Oui, on est au Bénin, on est en Afrique et pour nous, une vraie éducation, c'est l'éducation d'une fille qui ne touche pas au sexe jusqu'au mariage. C'est l'idéal que l'on construit ici et le débat se construit autour. Donc, les familles peuvent avoir l'impression d'avoir échoué ou failli à leur mission d'éducation quand ils admettent que les jeunes filles ou les jeunes garçons vont beaucoup plus au sexe précocement. Alors qu'on sait que dans la réalité des choses, précocement, les filles vont au sexe, elles sont de plus en plus ouvertes sur le monde, mais on ne veut pas forcément regarder de façon honnête et authentique la situation. Je vois aussi que cela décharge les familles de la prise de responsabilité, de se remettre en cause pour dire est-ce qu'on fait partie du problème ou pas. Moi, je pense qu'il faut que les familles arrivent à discuter avec elles-mêmes pour savoir, en faisant ça, est-ce qu'on rend service aux filles ou pas. Parce que le fait qu'elles restent complices fait que le problème devient plus grave.
On y va, on rentre dans la classe. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez ? C'est le même principe, parler ouvertement. Ici, c'est un espace ouvert. Déjà, est-ce qu'au cours de cette année scolaire, il y a eu des cas de grossesse précoce dans votre école ?
Oui, près de 10 patientes sont nombreuses dans notre établissement. C'est après les fêtes de Noël, quand on a commencé la rentrée, on a constaté que les filles étaient enceintes. La fille dont moi je connais, elle a abandonné, n'a pas continué l'école.
Bon, les cas que je rencontre souvent, c'est entre camarades. Jean qui est en classe de terminale, qui vient chercher une fille qui est en classe de 4e ou bien en classe de 3e, comme ça. Bon, il y a aussi des professeurs qui forcent aussi même les enfants à sortir avec eux pour avoir de notes dans leur matière. Donc, si tu ne les acceptes pas, ils feront tout pour que tu échoues, c'est ça.
D'abord, est-ce qu'à la maison, vous arrivez à parler de la sexualité avec les parents? J'ai entendu un gros non ici.
Non. Si j'arrive à poser la question à ma mère, même, elle me répond que je suis un garçon, je ne dois pas mettre pied dans ces déchets. Et il m'insulte, il me dit que tout ça, ce n'est pas bon.
Maman me dit qu'à notre âge, de nous s'occuper de nos études, de laisser d'abord les garçons de ne pas écouter les conseils des autres pour ne pas tomber dans ce genre de piège.
Sachant qu'à l'école, on peut parler de sexe entre amis et avoir envie de faire ça. Mais le fait juste de dire « Pour éviter la grossesse précoce, personne ne touche au sexe, tout le monde jusqu'à avoir le bac. » Parce que c'est ce que les parents disent. Et ils arrivent même jusqu'à utiliser un proverbe que « Si tu ne touches pas une rouge là, ton habit blanc ne sera pas taché. » Sans rien dire. Est-ce que vous pensez que le message là est réaliste?
C'est pas réaliste, pas du tout, pas du tout.
Parce que les informations que tes parents ne te donnent pas à la maison, tu les as avec tes amis.
Moi, j'accuse les parents parce que l'éducation d'un enfant commence depuis la maison. Il doit les expliquer, ne plus parler en parabole, détailler tout aux enfants, les conséquences négatives. Les professeurs aussi, les membres d'administration aussi n'ont qu'à essayer d'aborder ces sujets avec les enfants régulièrement.
C'est rare qu'on en parle.
Avec les professeurs?
Non.
Souvent, ça se passe parmi les amis. Si nous sommes en groupe, peut-être nous sommes des garçons, peut-être j'ai suivi une pornographie, je peux venir dire, ça m'a motivé à parler à cette fille.
Et si la fille ne veut pas?
Si la fille ne veut pas, on trouve souvent du moyen pour lui tourner la tête.
Pour lui tourner la tête?
Moi, je comprends que les filles ne veulent pas, mais nous, là, ça nous amène à forcer, quoi.
Voilà, parce que c'est la question que je voulais demander. Est-ce que vous respectez le fait qu'une fille ne veut pas tout simplement?
Au fait, quand on dit non, les garçons croient que dire non, c'est le manquer de respect. Et ils cherchent les moyens pour t'amener à dire oui. Tu dis non, non catégorie peut te tendre des pièges pour que tu entres dedans. Et quand tu entres dedans, après, on trouve que c'est la grossesse.
C'est quoi les pièges, par exemple?
Il peut te faire des cadeaux, des gris-gris, quoi. Et là, tu cèdes.
C'est vrai.
On peut aussi te suivre de loin. Et la nuit, quand tu sors, par exemple, de l'école à 19h, il peut t'attraper dans un coin, dans la bourse, mais n'importe où, à 4 à 5, voilà. Si tu refuses de leur donner le sexe, il y a tout ça qui arrive.
Nous, les garçons, on est libre de faire tout ce qu'on veut, mais les filles, là, elles sont les mêmes.
Tu as dit que les filles sont tous les mêmes. Là, je te dis que tu as tort. C'est ça qui est dans la bouche de tous les garçons. Et c'est ça, ils avancent premièrement pour convaincre la fille. Toutes les filles sont les mêmes, et elles-mêmes bêtes, stupides, elles se laissent. Mais si tu as une fille bien dans ta tête, tu es sûr de ton avenir, ce que tu vises, tu ne peux même pas céder. La solution, c'est de casser la relation parce que ça ne t'amènera pas quelque part. Ça veut plutôt détruire ton avenir.
Il a dit quelque chose. Nous, les garçons, on est libres. Les garçons sont un peu éduqués à être des chefs, à faire tout ce qu'ils veulent. Et même pour les fautes des garçons, les filles paient les conséquences. Est-ce que vous pensez que dans notre société aujourd'hui, il faut totalement rééduquer les garçons? Respecter la fille dans son entièreté, dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses non, dans ses oui. Avoir la fille aussi comme une personne libre, avec tous ses droits. Voilà.
On peut au moins essayer cette tentative pour voir si ça va marcher. Parce que la fille a vraiment besoin de liberté pour s'exprimer et rester aussi à l'école. Mais voilà qu'au niveau de l'État, l'État, lui, il s'en fout pas mal de ce qui nous arrive. Il y a trop d'injustice.
On peut faire un banc pour nous ensemble.
Quand les garçons et les filles débattent de sexualité, on prend la mesure du problème. On a entendu l'histoire d'Echinelle, victime d'un garçon peu scrupuleux et donc enceinte. L'engagement de Marceline, la désinformation aussi, les chantages financiers et surtout le déni de réalité de toute une société. Alors quelles sont les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les grossesses précoces, Raphaël?
Aujourd'hui, il n'y a encore aucun chiffre officiel depuis le début de la crise sanitaire. Néanmoins, selon un rapport publié par World Vision International, un des membres de la coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO, 1 million de filles en Afrique subsaharienne pourraient ne pas retourner à l'école en raison d'une grossesse survenue pendant la crise du Covid-19. Au Bénin, les écoles ont fermé pendant 2 mois, entre mars et mai 2020, ce qui a affecté plus de 3 millions d'élèves, Emmanuel. Et à ce moment-là, beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans la rue, sans activité et avec donc beaucoup de temps libre. Certaines jeunes filles ont travaillé avec leur maman dans la rue et alors exposé confrontés aux violences sexuelles et d'autres ont dû vendre leur corps pour survivre. Selon les témoignages que j'ai recueillis sur place de membres d'associations, certaines jeunes filles ne sont effectivement pas revenues sur les bancs à la réouverture des écoles en raison de la crise économique, de grossesse et de mariage précoce survenus pendant cette période de confinement.
La déscolarisation des filles les expose clairement aux grossesses non désirées. On l'a entendu de la part des élèves, le dialogue autour de la sexualité n'existe finalement ni à la maison, ni à l'école. La responsabilité des professeurs est également pointée du doigt par les jeunes. Ils sont parfois en plus eux-mêmes agresseurs. Alors quel est leur constat ?
Et bien, c'est toute la question que j'ai posée à Karel, 28 ans, professeur depuis 5 ans, et Thierry, enseignant depuis 20 ans à Porto Novo.
Bon, le problème de grossesse en milieu scolaire, c'est un problème réel au Bénin. On parle de sexualité à l'école aussi, mais ce n'est pas tellement développé parce que élèves comme enseignants, ils ont tous une culture. Et donc ce qui était tabou de l'autre côté, une fois venu à l'école, restait tabou. Mais les cours, tels que les cours de biologie, de SVT aujourd'hui comme on dit, ces cours-là permettent aux apprenants, notamment des classes de 3e, les adolescents, 14, 15, 16 ans, de parler parce qu'il y a la reproduction qui est au programme. Donc, il parle de sexualité, les méthodes contraceptives, la découverte du corps de l'autre, quoi. Donc, ce n'est plus tellement tabou comme cela l'était il y a quelques années ou une dizaine d'années en arrière.
Face aux questions relatives à la sexualité, vous avez une certaine réticence de leur part. Souvent, quand ils veulent en parler, c'est entre camarades, entre copains de jeunes. Et même quand parfois, c'est vous qui introduisez la question, ils ont du mal à s'ouvrir avec vous parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'en discuter avec les personnes adultes. Et c'est plus difficile pour eux d'aller vers l'adulte, surtout quand cet adulte représente pour eux une autorité qui pourrait peut-être sévir envers eux si d'aventure il leur arrivait de dire des choses qui pourraient paraître pas bien.
Et vous, Karel, est-ce que vous observez des comportements particuliers entre les élèves ? Est-ce que les jeunes s'influencent ? Est-ce qu'ils se cherchent autour de ces questions ?
On gère des jeunes pubères. Et c'est normal qu'il y ait ce genre de caractère qui se développe. Est-ce qu'il y a des rapprochements ? Oui, il nous arrive parfois en plein cours d'intercéder des notes qu'ils s'envoient, des lettres d'amour et tout. Il s'est arrivé plusieurs fois. Oui, on en observe. Mais je sais qu'ils sont de plus en plus précoces aujourd'hui. Je le sais, vous avez des enfants en 6e qui s'écrivent des « je vais t'épouser quand on sera grand, c'est toi mon mari ». J'en lis. En 6e, moi, je pensais plus encore à jouer à la poupée, à préparer des gâteaux de sable et tout, je ne pensais pas à ça. Donc, comparé à moi, oui, je dirais qu'ils sont un peu plus précoces qu'avant.
Un épisode m'est venu dans le collège. C'est des élèves, ils ont découvert des films un peu osés, de filmer les voilà qui ont voulu jouer à ce jeu-là. Et le soir, tout l'établissement avait été vidé. Mais eux, ils étaient restés. Deux garçons, deux filles. Ils étaient restés et il y avait quelqu'un qui devait filmer les ébats. Dans l'une de ces rondes, le gardien de l'établissement a été attiré par un bruit insolite. Il est allé, il a découvert les quatre en train de s'amouracher et tout ça. Donc, on a décidé de punir sévèrement ces élèves-là.
Pour vous, personnellement, en tant que professeur, quel rôle vous avez à jouer dans ce phénomène ?
C'est un rôle d'abord d'éducateur. Et d'ailleurs, je suis professeur de français et il y a des ouvrages, des romans qui sont au programme qui me permettent d'en parler davantage. L'ouvrage qu'on appelle « Serment d'abstinence », par exemple, à partir duquel on peut déjà sérieusement parler aux apprenants de comment s'abstenir d'aller au sexe, comment s'aimer sans aller au sexe. Comment rêver et partager des projets de vie commune, quitte à finir les études et à y aller après, quoi. Donc, moi, mon rôle d'enseignant de français, c'est de prendre appui sur les ouvrages qui existent et de leur montrer des exemples pour qu'elles s'en servent pour grandir sereinement.
Moi, je table plus sur l'abstinence et sur le report du premier rapport sexuel. On a beaucoup de cas de femmes aujourd'hui qui œuvrent dans la vie active pour le développement du pays. Du coup, moi, je me base sur ces exemples pratiques-là. On parle et aux garçons et aux filles. À la fille, quand on lui dit « si tu tombes enceinte maintenant, tu seras obligée d'abandonner les cours », même si ce ne sera que pour un temps, ça agira sur toi d'une manière ou d'une autre. Au jeune garçon, on lui dit « si tu deviens papa, tu devras faire face aux besoins de ton enfant ». À un certain niveau, il faudra que tu fasses face aux responsabilités de ton acte. Avoir un enfant sur les bancs, ça raccourcit ton cursus. Parce qu'il faudra que tu trouves plus rapidement un travail pour gérer les finances, pour aider la mère à assurer les besoins de l'enfant aussi. Donc, on expose les conséquences aux deux pour que chacun soit mis face à ses responsabilités. Parce qu'un enfant, on le fait à deux.
Il y a aussi que la pauvreté s'accentue davantage dans le pays. Parce que, vous savez, en Afrique, quoi qu'on dise, la pauvreté, elle est d'abord féminine. Les filles, généralement, sont des victimes passives, on pourrait dire, parce que je t'aime, quand on dit ça, et effectivement, elles croient qu'on les aime, elles ont envie de se sentir aimées, et à ces âges-là, c'est normal d'avoir un soutien. Et tout. Les mécanismes mis en place n'ont pas encore permis d'autonomiser la femme. Donc, si elle tombe enceinte rapidement, elle tombe dans le rang des femmes déscolarisées, et conséquence, elle pourra accepter des petits métiers ici et là, quitte à continuer le cycle de la pauvreté, quoi.
De nos jours maintenant, les enfants sont même plus grands que les parents, on va dire, parce qu'ils ont de la gâte, ils ont tout. Même qu'ils sont enceintes, déjà en sixième, des enfants vont déjà à l'acte sexuel. C'est plein dans l'école. Ils peuvent faire ça dans les salles de classe. Il y a des enfants qui le font dans les toilettes, comme n'importe où. En plus, là, dans notre milieu, il y a la brousse. Donc, ils font ça aussi dans la brousse. Ils font ça dans des conditions déplorables qui ne sont même pas bonnes à imaginer. Alors que le sexe, c'est quelque chose qu'il faut vivre en deux personnes. On constate de nos jours qu'ils prennent ça pour de l'amusement, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on connaît de la sexualité à 10 ans ?
Pas grand-chose.
Et t'as l'impression que tout le monde ferme les yeux sur ce contexte-là aujourd'hui ?
Les directeurs ne ferment pas les yeux, ils font de leur mieux. Mais c'est les élèves, c'est les jeunes qui ne veulent pas comprendre. C'est eux qui croient qu'on les empêche de vivre quoi ? De vivre ce qu'ils veulent, de s'épanouir du sexe. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est un esprit, mais c'est quelque chose qui les amène à tenter ou goûter.
Est-ce que quand vous aviez 10 ans, c'est des choses qui se passaient dans vos classes ou pas encore? Mais non, c'est plutôt récent.
Non, c'est récent. Ce genre de trucs ne se passait pas jusqu'à...
Avec les garçons, on s'amusait. Nous, on n'avait pas ce genre d'idée. Mais on constate que de plus en plus que nous changeons...
Le monde évolue. Il y a la technologie maintenant qui montre de n'importe quoi aux enfants. Parce qu'avec les téléphones, ils peuvent regarder les trucs pornographiques.
Mais les enfants de 10 ans, ils ont des téléphones portables, ils ont accès aux films porno.
Et là, mais c'est les amis qui en ont, qui sont plus âgés que eux. Et ils le montrent à des plus petits et ils regardent entre amis en classe.
Voilà. Genre, tout devient disponible et des trucs bizarres, on va dire, se passent. Voilà.
Tous les garçons, ils téléchargent des trucs de pornographie. Ils disent que tu es le maître du quartier, quoi. Si tu es le gars qui a fait plus de rapports sexuels, tu es un baisement chez eux. Et donc, les petits enfants, quand ils voient ça, eux-mêmes, ils ont envie d'être populaires, quoi, dans le secteur. Donc, eux, tous, ils veulent ressembler à leur grand frère.
Les parents achètent un téléphone aux enfants pour pouvoir étudier. Parce que de nos jours, sans le portable, maintenant, tu ne peux rien faire. À l'école, on demande de faire des recherches. Mais quand nous, on est avec les téléphones, au lieu de nous concentrer sur le travail, soit on est sur YouTube, soit on est sur Facebook pour écrire des messages. C'est par là ça commence.
Et ça, les parents, ils ne le savent pas.
Ils font ça en cachette. Pour que les parents ne soient pas au courant de ça. C'est quand on constate des cas de grossesse dans les établissements, c'est là qu'ils se demandent quand c'est arrivé.
Vous, c'est des choses que vous avez vécues ici?
On essaye de se ranger parce que nous, on n'a pas envie d'avoir la honte. Parce que ça, c'est une honte. Avoir un enfant, c'est pour le moment, dans nos circonstances, avoir une grossesse, c'est pour moi une honte. Parce que je gâche déjà mon avenir parce que ce que moi j'envisage de faire avec une grossesse, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas m'épanouir, ni m'exprimer, ni vivre mes rêves. Donc, je préfère m'abstenir. Je ne veux pas une grossesse maintenant. Je ne veux pas.
Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, reportage de Raphaël Constant au Bénin sur les grossesses précoces dans les écoles à Cotonou, Porto Novo ou encore dans les communes rurales. Un reportage qui ouvre sur le monde intime des enfants, des adolescents. Les filles qu'on vient d'entendre ont 16 ans, Raphaël.
Oui, Emmanuel, des filles et des garçons qui croulent sous les informations via Internet et leurs amis dans la cour d'école tout en restant dans une grande ignorance de leur corps et de la contraception. J'ai entendu des adolescentes me raconter disait qu'elle prenait de l'aspirine après un rapport sexuel pour ne pas tomber enceinte, sans parler des remèdes imaginaires et traditionnels.
Raphaël, pour faire face à ce phénomène, que font les pouvoirs publics?
Alors, la politique nationale du Bénin encourage le maintien des filles en classe. L'État exige aussi des établissements scolaires un recensement des grossesses. Et depuis 2018, le ministère de l'Enseignement travaille avec notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'Association béninoise pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique sur un programme d'éducation sexuelle des enfants de la maternelle à la terminale. Il s'agit de former des professeurs de français, de SVT, d'économie familiale et sociale par exemple, à parler de sexualité dans leurs cours selon des fiches et des modules bien précis.
Et quels sont les grands messages de la maternelle à la terminale?
Alors il y a trois piliers: apprendre à maîtriser son corps, développer l'estime de soi et prendre des décisions responsables au moment opportun. Et pour responsabiliser aussi les familles, ouvrir la communication dans le foyer, le programme prévoit un guide du dialogue parents-enfants. Bon, on est encore en phase pilote. Pour l'instant, 2000 enseignants ont été formés dans une quarantaine de collèges et d'écoles primaires et 12 écoles maternelles.
On comprend donc qu'il se passe beaucoup de choses dans l'école, mais les jeunes élèves échappent aussi au contrôle des éducateurs, au contrôle des parents sur le chemin de l'école.
Oui, l'environnement autour de l'école est tout aussi dangereux pour les filles et propice aux rapports de séduction. Selon le ministère de l'Enseignement, les principaux auteurs de grossesses précoces sont surtout les artisans et toutes les autres personnes du secteur informel qui rôdent près de l'école. Explication avec les professeurs Carrel et Thierry à Porto Novo.
Entre l'école et la maison, il y a la rue. Et dans la rue, on ne contrôle pas toujours tout ce qui se passe. La plupart du temps, on sait que les apprenants sortent tard, 19h, pour beaucoup d'apprenants dont les maisons sont situées à plus de 5 km. En chemin, beaucoup de choses peuvent se passer. Dans la rue, il y a suffisamment de corps de métier. Il y a des artisans un peu partout, il y a des émigrants, des conducteurs de moto et tout. Il y a de plus en plus aujourd'hui les brouteurs, comme on le dit en Côte d'Ivoire, mais bon, au Bénin, si on parle de gaïmon, des gens qui font de la cybercriminalité, qui du jour au lendemain deviennent très riches, ils ont de l'argent frais à dépenser. Les jeunes filles de nos écoles sont la première proie. Quand elles sortent, ces jeunes-là sont déjà tout autour et commencent à frimer, à faire de la parade, à montrer toute leur fortune, voitures, richesses, habillements et tout. Ce sont des images qui frappent et les filles voient ça et elles ne résistent plus trop quand ces jeunes hommes leur font des avances et tout. Donc il y a sensiblement ces prédateurs qui rôdent autour de l'école aujourd'hui. Si un ouvrier lui propose quelque chose, un artisan lui propose un peu d'argent, elle succombe. Mais ce n'est pas généralement sans contrepartie.
Aujourd'hui, la jeune fille est déjà partie de 10-11 ans à ses règles. Ça veut dire qu'elle découvre déjà son corps. Si cette fille n'a pas un bagage éducatif solide déjà de la maison, qu'elle rencontre quelqu'un qui commence à lui glisser 200 francs chaque jour, 500 francs chaque jour, tiens, c'est pour tes besoins, elle va facilement prendre goût à ça. Et le jour où cette personne-là va lui dire, maintenant il faut qu'en retour j'obtienne aussi quelque chose, elle ne pourra pas dire non. Parce que dire non pour elle reviendra à couper la manne et couper ces fonds-là qu'elle avait, qui l'aidaient à paraître un peu plus à l'aise devant ses camarades. Elle va facilement se laisser avoir. Et si elle n'avait pas une éducation sexuelle, elle ne sait pas quel jour du mois elle pourrait tomber enceinte facilement et récupérer une grossesse. Et voilà.
C'est au moment où il y a du coup plus de contrôle social, plus de contrôle de l'école pédagogique et le contrôle parental. Ça, c'est des choses que vous voyez?
Oui, on vit ça chaque fois, surtout en fin de semaine. Vous voyez des filles qui sont d'abord déposées par des inconnus, ils ne sont pas leurs parents directement. Là où j'enseigne, surtout, on vous interpelle, qui vous a déposé? Ils ont jusqu'à 5 ou 6 surveillants dans la maison. Ils veillent à tout. Ils informent les parents que telle personne est venue déposer leur enfant. Est-ce que ce sont eux qui ont donné l'autorisation? Donc il y a ce suivi-là, mais il n'empêche. Beaucoup de choses se passent dans la rue et c'est ce qui est davantage incontrôlable. L'essentiel, c'est d'éveiller la conscience des apprenantes elles-mêmes sur les risques qu'elles courent en ne suivant pas les conseils des adultes que sont les parents et les enseignants.
Je crois qu'actuellement, l'école fait ce qu'elle peut pour conscientiser les filles et éviter qu'elles ne tombent dans les travers d'une grossesse précoce. L'école, malgré les maigres moyens mis à sa disposition, s'assure de leur bien-être. C'est vrai que tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Mais les éducateurs, les enseignants, ils savent comment parler aux adolescents. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour que leur fille reste à l'école, ne soit pas déscolarisée à cause d'une grossesse précoce.
Je suis Hermine Bokossa, je suis militante féministe pour les droits des femmes et je suis également la présidente de l'organisation Jeunes Volontaires pour la Santé, JVS Bénin. Nous sommes à Dangbo et plus précisément au centre Jeunes Amour et Vie, qui est un centre ami des jeunes. Nous intervenons particulièrement ici parce que le département de l'OEME, dans lequel se trouve la commune de Dangbo, fait partie des départements à forte de grossesse précoce et non désirée dans le milieu scolaire.
On est devant le centre jeune, qui est une grande maison rose, qui est posée dans une cour au bord de la route.
Donc nous allons rejoindre les jeunes qui sont là depuis et qui nous attendent. Et merci beaucoup d'être venus. Et comme on le dit chez nous, tout ce qui concerne les jeunes, qui est fait sans les jeunes, est contre les jeunes. Ou bien, on ne peut pas parler de nous sans nous.
Non.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce cadre pour discuter. C'est bon, je peux compter sur vous?
Oui.
D'accord. J'ai appris quelque chose, donc je vais vous exposer ça. Vous allez me dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il y en a parmi vous qui ont un téléphone, qui ont accès à Facebook. Tout le monde est sur Facebook ici.
Oui.
Et il y en a qui regardent aussi nos velas, ou bien qui regardent les feuilletons, que ce soit sur l'ORTB ou n'importe quelle télévision. Dans ces feuilletons que nous regardons, il y a beaucoup de scènes romantiques, il y a beaucoup de scènes érotiques. Oui.
On voit dans les feuilletons qu'il y a un homme et une femme qui s'embrassent. Et parfois, ils font des conneries et ils aillent sur le lit et ils font l'amour. Donc, tout ça, c'est... ça attire, quoi. Les personnes se sont en train de faire l'amour, donc ils n'ont pas porté tout ça. Préservatif, quoi. Donc, pour elles, c'est comme si on n'utilise pas ça. Parfois, certaines même disent que même porter les préservatifs et faire l'amour, on ne sent rien.
Ah, d'accord. Il y en a qui sont sur WhatsApp?
Oui.
Mm-hmm. On parle aujourd'hui de... tontine sexuelle. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire qu'on est un groupe de jeunes. Souvent dans les écoles, il y a les groupes de jeunes choco, ou bien les filles choco, les garçons choco stars de l'école. C'est peut-être des garçons qui ont un peu les moyens, d'accord? Et comme on fait nos tontines, tout le monde cotise et l'argent qu'on prend, on remet ça à la fille. Si vous êtes 10 et que vous cotisez 1 000 francs, 1 000 francs, tout le monde cotise, ça fait 10 000 que tu remets à la fille. Et tu prends, c'est toi qui prends la fille le jour là, numéro 2 là, c'est toi qui prends la fille. Et ainsi de suite. Tout le monde finit par avoir sa part. Et les filles font ça pourquoi?
Pour avoir
de l'argent. Est-ce que vous constatez ce genre d'attitude, pas forcément sous cette forme, mais un peu quand même? Des filles qui se donnent parce que, faute de moyens, elles veulent de l'argent, coûte que coûte.
Il y
en a dans le beau. Ok.
Ce qui amène tout ça là dans le monde aujourd'hui, c'est le convoitisme. Tu as vu l'autre, elle a apporté quelque chose. Tu as envie d'acheter la chose, mais tu n'as pas de l'argent. Maintenant, tu as appris que il y a certaines filles qui s'adonnent au sexe pour avoir de l'argent, pour montrer qu'elles sont très belles ou bien pour montrer qu'elles sont choco, quoi. Avec ça là, tu peux dire que toi aussi, tu peux faire le sexe avec les garçons pour avoir de l'argent, pour bien t'habiller, quoi.
Comme j'ai beaucoup de camarades, eux, ils font belles filles, moi aussi, je veux être belle comme eux là, pour être à la mode comme mes camarades. Il m'a promis beaucoup de choses. Comme moi, je veux de l'argent là, c'est ce qu'il dit là, moi j'accepte comme ça. Comme j'aime bouffer son argent correctement là, j'ai accepté de faire le rapport avec lui. Parce que je suis là pour lui, lui-même est là pour moi. Quand j'ai constaté que j'étais grosse, comme c'est moi-même qui a commis mes crimes là, j'ai couru vers mon homme. Mais chez lui là, il veut qu'on avorte. Mais moi, je ne veux pas. Il a reconnu parce que c'est lui, je n'ai plus personne que lui.
Tu as dit qu'au départ, quand tu as besoin de quelque chose, ils te donnent l'argent, ils te donnaient tout. Mais après ton accouchement, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux l'appeler, lui dire, ben, « Ah, j'ai vu une nouvelle chaussure que j'ai envie d'acheter, ou bien j'ai envie d'aller prendre du lait caillé, j'ai envie de manger du shawarma. » Est-ce que ça continue comme avant, ces petits soins-là?
Non, non, il ne me donne plus comme avant. Donc, je n'ai plus le chat, comme j'ai déjà accouché là. Et c'est son enfant là, je n'ai plus le chat.
Donc, j'espère que vous avez appris quand même des témoignages des unes et des autres, parce que c'est vraiment ça le plus important. Et si vous avez des questions supplémentaires, il y a le numéro vert que vous pouvez appeler. Voilà, c'est le 1344 que vous pouvez appeler gratuitement quand c'est difficile et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne information dans votre environnement immédiat. Il y a toujours un moyen quelque part pour avoir la bonne information et faire des choix éclairés. On a beaucoup parlé, on va briser la glace. On va taper fort.
Grossesse précoce au Bénin, que se passe-t-il dans les écoles et dans les alentours? Reportage de Raphaël Constant chez 7 milliards de voisins et de voisines. Quand les langues se délient, on n'est pas au bout de ces surprises. Avec par exemple les tontines sexuelles d'adolescents qu'on a entendues, Raphaël Constant. Est-ce qu'il existe des initiatives citoyennes pour briser les tabous, pour regarder la réalité en face du côté des adultes?
Oui, l'enjeu aujourd'hui, Emmanuel, c'est d'impliquer tous les acteurs de la société à regarder en face les nouvelles mœurs des jeunes, car jusque-là, le message qui est diffusé par tous, c'est l'abstinence.
La réalité des témoignages est quand même très éloignée.
Hermine Bokossa, que l'on vient d'entendre à Dagbo, dans la région de Porto Novo, organise par exemple des dialogues intergénérationnels où elle rassemble des élèves, des parents et des leaders communautaires ou religieux, justement pour libérer la parole, pour les confronter aux nouveaux comportements sexuels des jeunes. Et elle m'a confié que lors de ces échanges, c'est vrai que les parents arrivent à toucher du doigt les limites des discours qu'ils tiennent à leurs enfants à la maison. Par contre, du côté des leaders communautaires, c'est encore très compliqué de remettre en question les normes sociales pour aller vers plus de sensibilisation aux moyens de contraception, par exemple. Et j'ai aussi rencontré une autre militante très engagée auprès des jeunes dans la lutte contre les fausses informations autour de la contraception, Gloire Ayetolou. Elle a 23 ans, elle est activiste pour les droits des femmes et travaille pour le partenariat de Ouagadougou, un regroupement de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest qui vise à faire avancer l'utilisation des services de planification familiale.
L'école, dans certains cas, protège des filles et dans d'autres cas, c'est un univers à risque. Parce que pendant longtemps, on a eu des grossesses en milieu scolaire dont les auteurs étaient des enseignants. Et c'était très difficile à accepter. Et à un moment, même l'État a pris ses responsabilités de dire, maintenant, au-delà même des sanctions qui sont prévues dans le cadre de la loi, si ce sont des filles mineures, il y a eu des sanctions administratives qui ont été mises en place pour... contrôler cela, comme par exemple l'arrêt systématique, la suspension de l'enseignant qui fait ça. Il y a aussi la loi qui prévoit quand même assez de choses comme la prison, des amendes et autres.
Quand l'auteur de la grossesse est reconnu, ce qui n'est quand même pas souvent le cas.
Oui, quand l'auteur de la grossesse est reconnu, mais on a quand même eu assez de cas où l'auteur de la grossesse a été reconnu, puni, et ça a servi d'exemple. On a remarqué quand même qu'il y a eu vraiment une très grande baisse. À un moment, on a sanctionné les prédateurs dans l'école. Donc, le problème s'est déplacé autour de l'école. Donc, aujourd'hui, on a les artisans tout autour qui usent de leur pouvoir d'achat sur les jeunes filles.
Et ça, c'est au vu et au su de tous, de l'école, des parents, de l'État?
Tout le monde le sait, mais personne n'en parle vraiment.
Mais les parents doivent se douter à un moment quand ils voient leur jeune fille rentrer avec un nouveau pagne ou le ventre bien rempli. Les parents ne sont pas dupes.
Ça, c'est pour les parents qui sont présents, qui s'en doutent, qui interdisent, qui punissent. Mais pour ceux qui ne sont pas présents, ceux qui livrent les jeunes filles à eux-mêmes, ce sont des parents qui abandonnent un peu leurs responsabilités. Il y a plein de parents qui tiennent un discours irresponsable, qui disent « chaque enfant se débrouille », des choses comme ça. Quand ce sont deux adolescents, ils n'ont pas les moyens de prendre soin d'une grossesse. Donc, ça revient sur les parents. Il y en a qui sont plutôt compréhensifs, qui discutent avec eux. Il y en a qui mettent la fille à la porte tout de suite.
Et pourquoi on la met dehors?
les parents déjà se sentent déshonorés. Ils se disent, voilà, tu jettes de l'eau propre sur la famille, tu es une fille de mœurs légères. Là où ils ont beaucoup plus des problèmes financiers, c'est l'occasion parfaite. Ça fait une bouche de moins à nourrir. Donc on la sort de la maison. C'est une occasion pour la marier.
Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'il y a des parents qui prennent leurs responsabilités ?
Le discours parental évolue, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus dans les grandes villes. Ce sont des parents qui, parfois, veulent bien prévenir, essayent de mieux gérer. Il y a effectivement des personnes qui sont assez progressistes, mais elles sont moins nombreuses que celles qui sont conservatrices.
Ça veut dire qu'il y a un discours de culpabilisation de la jeune fille et pas du garçon ?
Tout tourne autour d'elle. La grossesse, elle la porte. Les préjugés, elle les porte. La discrimination, elle subit. Le paradoxe de l'éducation sexuelle chez nous, c'est qu'on veut de la jeune fille qu'elle soit digne et on veut du jeune garçon qu'il soit viril, qu'il ait des expériences. La question que moi, je me suis toujours posée, c'est il aura ses expériences avec qui s'il n'y a pas de jeune fille dans l'équation. Mais avec les activités qui se font, le discours évolue. Aujourd'hui, au collège, par exemple, quand il y a une grossesse et que l'auteur est un élève comme l'autre, on demande à ce que si la fille doit arrêter, le jeune homme aussi, il arrête. Et du coup, ça a commencé un peu à responsabiliser les garçons. Ils se disent « Ah, je ne peux pas me la couler douce comme je le faisais avant. »
Est-ce que de ce côté-là, le regard de la société, les mœurs évoluent ?
En termes de sexualité, au Bénin, je pense quand même qu'il y a toujours une certaine hypocrisie. Maintenant, la sexualité aujourd'hui, à l'école, il y a beaucoup de choses qui existent qu'on ne voyait pas autrefois. Les jeunes qui sont avides d'expérience, ils se livrent un peu à tout. Et donc, on se voile un peu la face. On n'a pas envie d'admettre, d'accepter le fait que les jeunes sont sexuellement actifs. Au-delà même de l'hypocrisie sociale qui est entretenue un peu par tout le monde, il y a aussi la pression religieuse qui est très forte. Parce que le discours religieux refuse la fornication, veut que ce soit des personnes qui sont mariées. Pourtant, tout le monde sait que ça se fait. On voit les conséquences. Moi, je dis, si les jeunes, effectivement, étaient tous aussi abstinents que ce qu'on veut bien accepter, il n'y aurait pas de grossesse. On se rend compte que les normes, elles existent, que tout le monde les connaît, mais que ça n'a aucune influence. Plutôt que de tout le temps chercher à combattre les grossesses, à incriminer les jeunes, on devrait plutôt concentrer plus d'efforts sur comment prévenir la chose. On a l'impression qu'on veut dépraver les mœurs, alors que les mœurs, elles sont dépravées. Aujourd'hui, je comprends que ces normes résistent au changement, mais à un moment, il faut qu'on puisse faire un choix pour limiter quand même les dégâts en termes de grossesse, permettre aux jeunes d'être épanouis, permettre aux jeunes de pouvoir se construire des carrières, de contribuer au développement de leur communauté, de leur pays. J'aime entendre quand les adultes disent « les jeunes sont la relève », mais ce qu'il faut savoir, c'est que la relève, ce n'est pas demain qu'on la prépare, c'est aujourd'hui. Et quand on parle de normes sociales, la plupart du temps, les conservateurs ont l'impression qu'on essaye de raser tout ce qui existe et d'imposer de nouvelles normes, ce qui n'est pas le cas. C'est de trouver la façon de puiser de nos normes sociales ce qui est positif, ce qui correspond avec nos réalités aujourd'hui et d'avoir la responsabilité, le courage d'accepter qu'il y a des choses qui ne correspondent plus aujourd'hui à ce grand besoin de développement que nous avons, qui ne sont plus en phase avec les réalités. Avoir des filles enceintes qui sortent du système formel, ce n'est bon ni pour elles, ni pour la société.
Garder les filles à l'école pour construire une société plus juste. Vous pouvez réécouter le reportage de Raphaël Constant, Grossesse précoce au Bénin, que se passe-t-il dans les écoles, réalisé avec le concours de l'ONG Equipop. À la réalisation et à la technique, Romain Dubrac.